Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, jusqu'où pousser le sens de l'hospitalité ? Dans un pays qui a fait de la fraternité un des fondements de sa devise républicaine, est-il normal que l'aide à des étrangers entrés sur le sol français de manière irrégulière soit punie par la loi ? Cette question, c'est un avocat qui la pose au Conseil constitutionnel, lequel va devoir trancher le 6 juillet prochain pour dire si cette modalité, qui figure toujours dans le projet de loi Asile et Immigration, est conforme à la Constitution. Accueillir des étrangers, des migrants, et dans quelles conditions ? C'est la question qui occupe ce jeudi et jusqu'à demain les États membres de l'Union européenne. Qui les occupe et qui les divise profondément ? L'heure n'est pourtant plus à la crise migratoire. Le nombre de personnes arrivées en Europe via la Méditerranée a considérablement baissé, de plus d'un million en 2015 à 172 000 l'an dernier, selon les chiffres du HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés. C'est que la question de l'accueil des migrants ne relève pas uniquement de statistiques. Elle fait appel à une part d'irrationnel, à l'idée qu'on se fait de la figure de l'étranger, mais aussi à la conception qu'on peut avoir de la notion d'hospitalité. Et c'est justement autour de cette notion que nous avons choisi de réfléchir ce soir dans le cadre de notre partenariat mensuel avec le journal La Croix. Jusqu'où pousser le sens de l'hospitalité ? C'est donc la question que nous posons ce soir à deux invités. Fabienne Brugère, bonsoir. Vous êtes philosophe, professeur à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Vous avez publié l'an dernier chez Flammarion avec Guillaume Leblanc « La fin de l'hospitalité », ouvrage qui vient de sortir en poche dans la collection Champs Essais. Vous avez par ailleurs coordonné le tout nouveau numéro de la revue Esprit pour juillet-août, « Le courage de l'hospitalité », dont vous êtes membre, la revue Esprit, du comité éditorial. Je crois que j'ai été à peu près complet. Pour discuter avec vous, Philippe Diribarne, bonsoir. Vous êtes sociologue, directeur de recherche au CNRS. Le dernier ouvrage que vous avez publié, c'était chez Gallimard en 2016, « Chrétien et moderne ». Chrétien et moderne, ce pourrait être la devise du journal La Croix, n'est-ce pas, Guillaume Gauvert ?
Bonsoir, Hervé.
Directeur donc, de la rédaction de La Croix, je rappelle donc, notre partenaire chaque dernier jeudi du mois. Alors avec vous, on va donc parler ce soir d'hospitalité. J'aimerais d'abord vous poser une question à l'un et à l'autre. Est-ce que pour vous, l'hospitaliser, c'est quelque chose qui va de soi ? Est-ce que c'est de l'ordre du réflexe ? C'est quelque chose de spontané ? Ou bien est-ce que nous ne sommes pas, disons, spontanément et naturellement hospitaliers ? Donc c'est une démarche qui mérite une forme de réflexion. Fabienne Brugère.
Je crois que l'hospitalité, il y a deux choses à penser à travers cette notion. D'une part, la possibilité d'une impulsion hospitalière et donc d'un sens de l'hospitalité qui est un secours ou un accueil de l'autre dans le besoin.
Mais si on donc ça serait une forme de réflexe presque ?
Alors en même temps non, parce que si on dit secours ou accueil de l'autre dans le besoin, ça suppose en même temps de reconnaître qu'il y a un appel de l'autre. C'est-à-dire que ce qui rend l'hospitalité complexe et ce qui fait que précisément elle n'est pas seulement un réflexe, elle n'est pas seulement quelque chose qui est du registre de la compassion, c'est qu'elle suppose en fait de savoir répondre justement à un appel. L'appel de l'autre en détresse. Et ça me semble être un point particulièrement important. Ce qui veut dire aussi, si l'autre est en détresse et qu'il a besoin de nous, que l'hospitalité, c'est aussi une épreuve. C'est aussi quelque chose de difficile, parce qu'aller vers l'autre qui précisément est dans le besoin, ce n'est pas quelque chose de simple. J'ajouterai par ailleurs qu'il ne faut jamais oublier qu'étymologiquement, en fait, hospitalité renvoie justement à hostilité du point de vue de l'étymologie. Et donc, sans doute que l'hospitalité ne va pas sans l'hostilité. C'est parce qu'il y a de l'hostilité, c'est parce qu'il y a des guerres, des désastres, qu'il y a précisément aussi des conduites hospitalières.
Est-ce que vous partagez, Philippe Diribarne, cette approche complexe de l'hospitalité ?
Oui, je crois que un grand problème, et qu'on rencontre bien actuellement, c'est que l'hospitalité, c'est à la fois un rapport interpersonnel et un rapport social. Si on s'écarte un instant, disons, sujet, pour bien montrer la différence entre les deux. Vous avez quelqu'un qui arrive dans un hôpital, sorti d'un accident de la route, qui est dans un état critique, comme on dit. On va essayer de le sauver en se posant absolument pas la question de est-ce qu'il est responsable, est-ce qu'il a fait, s'il a été un excès de vitesse, s'il a franchi le rouge, etc. On se pose pas la question. On est vraiment dans l'interpersonnel, on est dans l'accueil inconditionnel et quoi qu'il ait fait, on fera le maximum pour le sauver. Et puis ensuite, une fois qu'il est rétabli, vont intervenir les assurances pour savoir quelle est sa part de responsabilité. Éventuellement, s'il y a eu un mort dans l'accident, qu'il est responsable, la justice va intervenir, etc. Et donc, on va avoir, si vous voulez, la combinaison de ces deux choses. Alors, pour l'hospitalité, de la même façon, vous avez un registre dans lequel, oui, vis-à-vis de la personne en difficulté, mais enfin, qui ne représente d'une part, si vous êtes de l'hospitalité, donc vous avez des sentiments d'accueil, etc. Et puis ensuite, vous avez un rapport social qui va se nouer. Et alors, c'est là, si vous voulez, vous évoquiez si vous voulez, la parenté entre hostilité, hospitalité, etc., qu'on a affaire à quelque chose de très complexe et qui demande à être régulé.
Mais pour rester sur votre comparaison avec un malade qui arrive à l'hôpital et pour lequel on ne se pose pas la question de savoir si son passé mérite ou pas qu'on le soigne, est-ce que vous diriez qu'il faut déjà, dans un premier temps, dans une phase qu'on peut qualifier d'une phase d'urgence, avoir la même attitude, par exemple, avec ces migrants qui se retrouvent sur des bateaux, alors soit après avoir été pris en charge par des ONG, mais avant qu'ils le soient, ils sont d'abord très souvent, ils se retrouvent à la dérive. Est-ce que l'hospitalité suppose que déjà, dans un premier temps, on ne se pose pas de questions ?
Alors, la difficulté, justement, actuelle, et qui fait toute la différence avec le cas de l'hôpital, c'est que dans le cas de l'hôpital, les divers acteurs, disons les gens de l'hôpital, l'assurance, les magistrats interviennent de manière tout à fait indépendante et ce que fait l'hôpital ne préjuge pas de ce qui va être fait par la suite. Alors, dans une répartition des rôles, disons, qui serait tout à fait satisfaisante, on dirait effectivement, dans un premier temps, on accueille de manière totalement inconditionnelle, on soigne, on rétablit, on remet en forme, etc. Et puis ensuite, les rôles changent, l'individu en question est rétabli, il est en forme, donc là, on revient dans le rapport social, et on se demande, est-ce qu'il est réfugié, migrant économique, quelles sont ses intentions, qu'est-ce qu'il va venir faire, est-ce qu'il va devenir un bon citoyen, est-ce qu'il va s'intégrer à une diaspora, est-ce qu'il va faire problème. Et en fait, le problème est que on ne sait pas bien séparer les deux.
Vous êtes d'accord avec ça, Fabienne Brugère ?
Je pense que c'est sûr que sur les questions d'hospitalité, on peut dire qu'il y a trois verbes qui interviennent. Il y a le verbe d'abord secourir, la question du secours. Et il me semble qu'en ce qui concerne la question du secours, l'éthique est largement première, l'impératif humanitaire du secours. Je crois que ça, c'est quand même une règle de notre humanité. Après, il y a le verbe accueillir. Et de mon point de vue, l'accueil n'est jamais inconditionnel. L'accueil est toujours soumis à des conditions. Mais c'est la raison pour laquelle l'accueil fait intervenir non seulement une éthique, mais aussi nécessairement une politique. Et donc, l'accueil suppose, par exemple, des lieux d'accueil. Il suppose des dispositifs d'accueil. Et l'accueil est toujours soumis, en ce sens-là, précisément à des politiques. Et de ce point de vue-là, par exemple, si on prend la question des migrations actuelles, il est évident que les pays ont eu des politiques d'accueil différentes, que les politiques d'accueil, par exemple, de l'Allemagne et de la France sur les deux dernières années n'ont pas été les mêmes. Et puis, il y a après un troisième verbe qui, lui, d'ailleurs, désigne une fin de l'hospitalité et désigne autre chose, c'est le verbe appartenir. C'est la question de savoir si, après l'accueil, on détermine une appartenance qui peut devenir une appartenance, par exemple, nationale. Ou
voilà,
qui...
quand on n'est plus un étranger, mais du coup, qu'on a rejoint et
voilà,
qu'on a intégré
qu'en tout cas, on a intégré la communauté pour un certain nombre de droits, comme par exemple aussi le droit d'asile. On est devenu un réfugié. Ça, c'est aussi une manière d'appartenir. Il y a plusieurs formes d'appartenance après.
Guillaume Goubert.
Moi, je m'interroge sur le rapport entre hospitalité et désintéressement. Je voudrais revenir sur le livre qu'a cité tout à l'heure Hervé, Fabienne Brugère, La fin de l'hospitalité. À l'époque où l'Europe était hospitalière, c'est parce qu'elle y avait intérêt. Je veux dire, la France a accueilli de nombreux étrangers parce qu'elle avait besoin d'ouvriers pour les usines. De même, l'Allemagne a signé des accords très importants avec la Turquie pour trouver de la main d'œuvre. Est-ce que c'était de l'hospitalité ? Et finalement, pour vous permettre d'expliciter ce titre, qu'est-ce qui a changé ?
Alors, effectivement, on pourrait reprendre l'histoire de l'Europe et le moment, ça ce sont d'ailleurs les analyses de François Héran, le moment où dans l'histoire des migrations, on passe finalement des besoins économiques et du fait qu'on a fait venir finalement des étrangers au nom de la croissance et dans un certain nombre en fait de professions. Et puis ensuite au fait que les questions de migration, la question du migrant, la question de l'étranger, elle a été de plus en plus appréhendée à travers la question des droits. Par exemple, à travers le regroupement familial. Donc il y a eu, je crois, dans nos sociétés, en tout cas européennes, du point de vue de la manière dont les sociétés européennes se sont construites ces 30-40 dernières années, un passage finalement de l'utilitaire, le migrant est là pour des besoins économiques et je crois que là c'est quand même, c'est, si on parle d'hospitalité dans ces cas-là, c'est malgré tout un peu compliqué, il faut parler à ce moment-là des conditions qui ont été celles de l'accueil de ces migrants économiques, et c'est en un sens bien précis. Et ensuite, on est passé à la question des droits, et de plus en plus d'associations se sont structurées sur la question de la défense des droits, justement, des étrangers ou des migrants. Et là, ce qui a été défendu à ce moment-là par rapport à la question des droits, c'est un sens politique de l'hospitalité. C'est là-dessus que j'aimerais insister. C'est le fait qu'il y a à la fois un sens éthique de l'hospitalité, mais il y a aussi un sens politique que Kant avait pensé au moment des Lumières, moment où il avait dit, en fait, l'hospitalité n'est pas une affaire philanthropique, c'est une affaire juridique. C'est un droit de visite, alors qu'il avait posé comme étant quelque chose de temporaire, mais c'est un droit d'accueil, d'une certaine manière, qui concerne tous les persécutés de la Terre, parce que précisément, nous habitons tous la même terre. Donc c'était une forme cosmopolitique de l'hospitalité.
Sur quel terrain vous placez cette notion, vous la placez cette notion d'hospitalité, Philippe Ribard? Est-ce que c'est sur le terrain du droit, justement, ou est-ce que ça peut aussi vous paraître légitime de considérer que l'hospitalité, elle peut être à géométrie variable en fonction des besoins, de l'utilité qui trouve le pays qui va accueillir ces étrangers?
Non, je crois qu'il faut d'abord rappeler en matière d'hospitalité qu'il y a eu l'accueil des Juifs d'Europe centrale qui fuyaient le nazisme, les persécutions d'Hitler, et il y a eu l'accueil des boat people vietnamiens, qui ont l'un et l'autre, je crois, répondu non pas à un intérêt économique dans un comme dans l'autre, mais réellement à une démarche d'hospitalité. Alors, si on prend les situations plus récentes, je crois qu'effectivement, une grande difficulté vient de la rencontre de deux référentiels. Il y a le référentiel traditionnel de l'hospitalité, effectivement, tel que les Grecs ont longuement réfléchi dessus, dans lequel on distingue ceux qui accueillent et ceux qui sont accueillis. Il y a les devoirs de ceux qui accueillent et les devoirs de ceux qui sont accueillis. Et pour que ça se passe bien, je sais pas, Jean Daniel, par exemple, a très bien parlé dans le Nouvel Observateur de ce c'était l'expérience pour lui d'être accueilli, la façon dont il ressentait les devoirs de celui qui est accueilli et celui qui est accueilli et qui vient pour appartenir. Effectivement, qui vient dans cette perspective. Alors actuellement, je crois que le problème vient de ce qu'on a. On a la rencontre, au fond, de cette représentation traditionnelle, on accueille, on est accueilli, des devoirs différents, et dans lesquels, éventuellement, on débouche sur une appartenance, mais une appartenance qui implique une acceptation des lois, des us et des coutumes, etc., d'un côté, et ça vient télescoper un tout autre modèle juridique, lui, dans lequel on est dans une société de citoyens, et que dans une société de citoyens, il n'y a pas les accueillants et les accueillis. C'est un thème que Tariq Ramadan, par exemple, a beaucoup développé, et dans lequel les accueillis ont exactement les mêmes droits que les accueillants, et en particulier les us, les coutumes, etc., des accueillis sont exactement à égalité avec ceux des accueillants. Je crois qu'une bonne part des réactions des populations occidentales sous des formes diverses à la situation actuelle vient justement de ce qu'on est entre les deux. On est entre les deux.
Mais vous évoquez le nom de Tariq Ramadan. Ça veut dire que, quoi, pour vous, Philippe Diribard, ce sont les musulmans, peut-être, qui peuvent poser un problème particulier par rapport à cette notion d'hospitalité, c'est-à-dire d'avoir des personnes qui vont peut-être être accueillies sur le sol français, mais dont on peut imaginer qu'elles ne feront pas les efforts pour s'intégrer à la communauté française. C'est comme ça qu'il faut comprendre ce que vous dites.
Il y a quelques années, il y a eu un excellent ouvrage de Hugues Lagrange qui avait étudié vraiment en profondeur le cas des Maliens, à la fois, si mes souvenirs sont bons, au Mureau et à Mantes, dans lequel il décrivait bien, si vous voulez, il y avait une diaspora qui n'avait mais absolument pas l'intention de dans lequel même la pratique du français était fort rudimentaire pour une partie d'entre eux, dans lesquels enfin, on était vraiment tout à fait loin, si vous voulez, du modèle du citoyen français.
Mais ça, alors, on ne peut pas le savoir au moment où on accueille. On est bien obligé quand même de faire le pari que ce n'est pas comme ça que ça se passera. Ou bien est-ce que, par principe de précaution peut-être, il faut se dire bah non, on ne va pas les accueillir parce que si ça se trouve, ils ne voudront pas s'intégrer.
Voilà, c'est toute la question. C'est toute la question. C'est qu'au moment où on prend une décision qui va engager l'avenir pour très longtemps, est-ce que on fait un pari et quel pari fait-on sur l'avenir, ou est-ce que on ne voit que la situation présente ? Je crois que le grand, si vous voulez, la grande fracture actuelle au sein de l'opinion occidentale et entre ceux qui disent mais on est vraiment dans un moment où on a des gens en détresse, il est absolument pas question de se poser la question de ce qu'ils vont faire ensuite, et ceux qui disent mais attention, pensons à l'avenir et les responsables politiques doivent se préoccuper de l'avenir.
Accorder l'hospitalité, c'est faire un pari sur l'avenir, Fabienne Brugère ?
Moi, je crois que les grands pays sont des pays d'immigration. Et si on prend d'un côté l'exemple des États-Unis, bon, même si la situation actuelle, bien sûr, ne va pas du tout dans ce sens-là, si on prend l'Europe, depuis le 19e siècle, en particulier la France, c'est un pays d'immigration. Il y a des études aujourd'hui qui montrent que même économiquement, l'immigration peut être favorable. Alors, je ne suis pas du tout sur la piste d'une immigration complètement incontrôlée. C'est pas ça que je dis. Je dis que, en fait, que les immigrés apportent quelque chose à un pays, qu'ils apportent, bien sûr, dans le cadre du respect de l'état de droit. Et donc, oui, je suis plutôt favorable d'un point de vue intellectuel à des sociétés d'immigration.
Mais est-ce que vous dites quand même, est-ce que vous diriez que ça peut quand même représenter un risque que d'accueillir, que d'offrir l'hospitalité à des migrants parce qu'on ne sait pas la façon dont ils vont rejoindre ou pas la communauté qui les accueille ? Et est-ce que c'est un risque qui vaut la peine d'être pris ?
Il y a plein de choses qu'on ne sait pas quand on met au point une société. On ne sait pas de la même manière ce que vont devenir aussi, entre guillemets, des natifs, après tout. Après tout, il y a des gens qui deviennent fous sans qu'on l'ait prévu. Donc, effectivement, dans une population issue de l'immigration, il y a les mêmes risques. Il y a les mêmes risques de criminalité. Il y a les mêmes risques de folie. Mais il y a aussi les mêmes choses. Chance d'intégration, il y a une sacrée volonté souvent de s'intégrer, de faire quelque chose, de travailler. Mais il y a aussi effectivement des individus qui, eux, ne seront pas sur cette logique-là. Donc je dirais que le risque dans une société, il existe toujours. En revanche, je crois que si on crée de plus en plus une différence à l'intérieur des sociétés, comme le font un certain nombre de leaders populistes en Europe aujourd'hui, entre nous et eux, c'est-à-dire nous les nationaux et eux, tous ces étrangers qui viendraient nous envahir, qui sont dans une situation clandestine ou qui demandent le droit d'asile. Je crois que si on crée en revanche comme ça des séparations, on va créer de plus en plus de risques, effectivement.
Et à propos du risque, juste avant de repasser la parole à Guillaume Goubert, Nathalie Sarthou-Laju, qu'on recevait il n'y a pas très longtemps pour une émission sur la dette, qui est philosophe, qui dirige la revue Études, dit « Accorder son hospitalité, c'est accepter le risque d'être privé de toute sécurité, c'est consentir à la menace de la trahison ». Je crois que c'est une assez belle phrase. Guillaume Goubert.
Je me pose la question, bon, pour les chrétiens, il y a un fondement doctrinal à l'hospitalité, la parole du Christ qui est très très forte, j'étais un étranger, vous m'avez accueilli. Je m'interroge sur les fondements laïques de l'hospitalité. Qu'est-ce qui, pour les non-chrétiens, les non-croyants, peut fonder cette hospitalité ? Et je me pose aussi la question de savoir si l'hospitalité est une valeur universelle. Est-ce qu'elle vaut, autant que vous le sachiez, dans les différentes aires culturelles, Philippe Diribarne ?
Un point qui est très frappant, c'est justement dans tous les réfugiés, disons, du Moyen-Orient, de Syrie, etc., que l'accueil que leur a réservé, par exemple, l'Arabie Saoudite est assez limité. La question,
le Liban, qui est un pays multiconfessionnel, accueille énormément de réfugiés, même si les conditions d'accueil sont peut-être compliquées, mais enfin, en tout cas, voilà, il y a plus d'un million de réfugiés syriens, par exemple, aujourd'hui, sur leur sol.
Sur les mêmes risques, quelque chose, justement, au moment, si vous voulez, des arrivées, des immigrations italiennes, polonaises, espagnoles, etc., on a dit, oui, c'est compliqué, etc., mais le phénomène qu'on a observé, c'était que les deuxièmes générations étaient mieux intégrées que les premières générations et que les troisièmes générations étaient complètement fondues dans la population. Alors, ce qui pose problème actuellement avec une bonne part des nouveaux immigrés, c'est que les secondes générations sont moins bien intégrées que les premières générations. Le travail d'Hakim El Karoui là-dessus, enfin, qui a fait toute une enquête auprès des musulmans de France avec l'Institut Montaigne, a bien montré que si on compare les premières générations avec les deuxièmes générations, le pourcentage de ceux qui ont une attitude positive envers la société d'accueil s'est nettement réduit entre la première génération et la deuxième génération. Alors là, c'est un phénomène tout à fait nouveau, et donc qui correspond à quelque chose qui remet en cause la conception traditionnelle de, ben voilà, il y a une immigration au début, oui, c'est pas facile, il faut s'ajuster, mais voilà, on va continuer. Alors, sur la question que vous posiez, je crois que il faut bien voir quand même que dans l'univers biblique, d'abord, il y a une figure très forte de l'étranger qu'on accueille, qui va avec la veuve, l'orphelin, mais qui en même temps doit s'intégrer, doit être circoncis, etc., suivre les fêtes, etc. Et puis il y a quand même une figure très forte de l'étranger dont il faut se méfier, les femmes étrangères qui viennent séduire les rois, qui vont les amener à trahir, qui vont rentrer dans les cultes, etc. L'étranger qui va dominer, qui va arriver comme gentil, et puis qui va dominer, etc. Donc il y a les deux. Alors, je crois que dans l'univers proprement sur les chrétiens, dans la mesure où la gestion des rapports entre les peuples est confiée à César, finalement on ne parle plus que de l'accueil de l'étranger dans le registre de l'interpersonnel. C'est de même que on dit seulement à propos du prisonnier, j'étais prisonnier, vous m'avez visité, etc., mais on parle pas de politique pénale. Alors, voilà, il faut faire attention, si vous voulez, de ne pas aussi avoir une approche fondamentaliste, disons, du monde chrétien.
Est-ce que ces deux figures de l'étranger, elles coexistent toujours pour vous aujourd'hui, Fabienne Brugère, une vision positive, une vision plus négative, l'étranger qui représente une menace, et qu'est-ce qui peut expliquer, si ce n'est justifié pour vous, que l'étranger puisse être vu comme une menace? Dire que c'est irrationnel, ça ne peut pas suffire pour l'expliquer. Ça se fonde sur quoi, à votre avis?
Je crois que les nations aujourd'hui sont en train de perdre un certain nombre d'éléments qui font leur souveraineté. Par exemple, en termes économiques, dans une économie mondialisée, dans une Europe qui s'est largement constituée d'un point de vue économique, eh bien, les nations et les gouvernants ont de moins en moins de prise sur un certain nombre de décisions. Et du coup, la question de l'étranger et de l'étranger clandestin et de l'étranger, du coup, considéré comme un intrus, devient une manière de refaire, malheureusement, nation. C'est-à-dire, ça devient une manière de pouvoir poser assez simplement, dans un monde pourtant complexe, une différence entre eux et nous. C'est une manière pour un certain nombre, en particulier de dirigeants populistes, de pouvoir réaffirmer une forme de souveraineté. Malheureusement, sans valeur, me semble-t-il, peut-être la valeur, peut-être une certaine conception de la nation comme nationalisme, mais ça devient une manière d'affirmer son pouvoir. Et pour répondre tout à l'heure sur cette question qui me paraît essentielle de comment les laïcs font-ils avec l'hospitalité, je dirais qu'en ce qui concerne la République française, d'où la difficulté d'ailleurs à nier tout discours de l'accueil, c'est le terme de fraternité. Liberté, égalité, fraternité. La fraternité, c'est une manière d'envisager les autres comme des frères, comme des sœurs, donc comme des semblables. Et en ce sens-là, si on considère l'autre comme un semblable, eh bien précisément, on doit le secourir.
Est-ce que ce terme d'ailleurs de fraternité qui appartient à la devise républicaine, c'est dire donc à quel point c'est un élément central de ce qui constitue notre société, pourrait être imaginé comme une forme de droit opposable, c'est-à-dire justement sur la question de l'hospitalité, la fraternité, dire ben voilà, ça fait partie de la devise, donc on a un devoir d'accueillir ceux qui demandent à l'être.
En tout cas, ça me semble intéressant ce que vous avez posé tout à l'heure, justement, à partir de la démarche de cet avocat. Il y a un vrai problème du point de vue des idées, en tout cas. Comment, dans un pays qui a pour élément de sa devise, justement, la fraternité, comment peut-on faire tenir le délit de solidarité ? C'est une vraie difficulté quant à la conception que nous avons de notre République.
Si vous étiez au Conseil constitutionnel, Philippe Diribarne, vous arriveriez à faire tenir cette contradiction ou...
Heureusement, je dirais, sûrement pour le Conseil constitutionnel et peut-être pour moi, je n'en fais pas partie. Il faut se méfier quand même. Il y a quelques années, on a beaucoup dit, il y a un sentiment d'insécurité, mais il n'y a pas d'insécurité. Non, il me semble qu'on reprend, c'est la même ancienne, dire attention, non, il n'y a pas de problème avec les étrangers, il y a un sentiment qu'il y a un problème, et ces étrangers sont les boucs émissaires, etc., etc. Alors quand même, une étude qui vient d'être faite par une série d'inspecteurs généraux de nombreuses administrations, ministère de l'Intérieur et autres, sur Grigny.
Grigny, qui est une commune de l'Essonne.
La Grande Borne. Il y a une partie du territoire qui est vraiment devenue un territoire qui n'est absolument plus contrôlé. La police a totalement renoncé à le contrôler. Pour vous donner le maire, par exemple, a renoncé à mettre des caméras de surveillance, comme il y en a la plupart des communes françaises, parce qu'il a été prévenu que s'il en mettait, sa vie et la vie de sa famille seraient mises en cause.
Donc si on avait su, il aurait fallu, quelques années plus tôt, ne pas accorder l'hospitalité aux parents de ces jeunes qui tiennent les quartiers ?
Ou il aurait fallu, ça c'est une option, mais il y a une autre option qui était de dire, mais à partir du moment d'être dans la logique, disons, traditionnelle de l'hospitalité, c'est que quand on accueille quelqu'un, eh bien, celui qui est accueilli a un ensemble à se conduire comme quelqu'un qui est accueilli et qui a les devoirs de celui qui est accueilli. Ce qui fait, si vous voulez, problème, c'est que la vertu, disons, l'accueil, l'attitude d'hospitalité a rencontré une représentation dans laquelle il était impensable de faire sentir à celui qui était accueilli qu'il avait des devoirs correspondants.
Fabienne Brugère veut réagir ensuite une question de Guillaume Goubert.
Dans un grand quotidien du soir, pour un article à sortir demain, il y a toute une analyse sur les réfugiés en Europe, sur un certain nombre d'enquêtes qui ont été faites concernant les réfugiés en Europe. Il se trouve que la France est un des pays européens où on répartit le moins les réfugiés équitablement sur le territoire. Lorsque les réfugiés en Allemagne, ils sont vraiment envoyés partout en Allemagne. La Suède, pareil. En France, en fait, on n'arrive pas à répartir équitablement les réfugiés sur le territoire. On sait que la Seine-Saint-Denis est de loin le département en France où il y a le plus d'étrangers. On sait que dans ce département, il y a sans doute entre 100 000 et 300 000 étrangers clandestins. Donc la question, c'est celle de la répartition des étrangers sur le territoire. Et donc là, une fois de plus, il y a une nécessité politique de l'hospitalité, la répartition des étrangers sur le territoire.
J'aimerais parler de la pédagogie politique de l'hospitalité, parce qu'on entend beaucoup de discours sur le thème l'immigration zéro. Enfin, on l'entend moins ces temps-ci, mais ça a été un slogan qui a été très très important à une époque. Et on voit bien qu'il y a un discours politique, y compris en France, qui est vraiment de l'idée d'affirmer qu'il faut fermer le plus possible l'immigration. Or, on sait bien que sur le long terme, l'immigration ne va pas pouvoir être complètement stoppée compte tenu des déséquilibres de richesse, des déséquilibres démographiques et également des problèmes climatiques, etc. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt faire une pédagogie des migrations pour préparer les esprits dans des pays comme les nôtres au fait que nous devrons accueillir des immigrés et faire en sorte que cet accueil soit le mieux organisé possible, on en parlait à l'instant, plutôt que de tenir ce discours non à l'immigration, Philippe Diribarne.
Je crois que c'est la question, c'est enfin dans les populations, disons, qui sont arrivées depuis longtemps, il y a un certain taux d'intégration dans la société française, un certain nombre de gens qui quittent la diaspora en quelque sorte pour s'intégrer tout à fait à la société française. Et en sens inverse, l'arrivée des nouveaux qui s'intègrent dans les diasporas, avec en particulier tous les mariages, ceux qui vont chercher des conjoints à l'étranger, etc., fait qu'au contraire, ces diasporas sont, disons, à certains égards, se radicalisent dans leur non-intégration. Alors, la question est de l'équilibre entre les deux phénomènes. Bon, si on est dans un processus dynamique dans lequel le taux d'intégration des anciens, des diasporas, est plus fort que le taux d'arrivée des nouveaux qui retirent les diasporas vers la non-intégration, ben on peut dire qu'avec du temps, voilà, on va y arriver, qu'on peut avoir un taux raisonnable, disons, d'arrivée dans les diasporas. Si au contraire, le taux d'accroissement des diasporas est supérieur au taux de fuite vers la société, etc., là, on a des problèmes. Alors, bien évidemment, l'intensité des problèmes dépend des politiques qui sont menées en matière d'intégration. Alors, au fond, au cours des dernières années, je crois que Hubert Védrine l'a bien expliqué dans son dernier livre, autour des dernières années, des dernières décennies, on a tellement cru que, puisque les Italiens, les Espagnols, les Belges, les Polonais, etc., s'étaient intégrés sans problème, donc il n'y avait rien à faire, on laissait faire, etc., tout irait bien, donc ce serait pareil avec les nouveaux. Et ben, donc, au fond, actuellement, on a à gérer une situation où, là-dessus, on s'est trompé. On n'a pas mis en place, à la fois on n'a pas mis en place les mécanismes d'intégration, et puis les anciens mécanismes d'intégration à travers les syndicats, le Parti communiste, l'Église catholique, etc., qui avaient marché pour les vagues précédentes, ne marchaient plus. Et donc on a eu tout un ensemble de choses qui ont fait que des processus d'intégration qui avaient marché, maintenant, voilà, patine, et que donc il faut réinventer de nouveaux processus.
On n'a ni les bonnes politiques, ni les bons mécanismes d'intégration aujourd'hui, Fabienne Brugère.
Je crois surtout qu'effectivement, on devrait procéder à des sortes de pédagogie de l'hospitalité, parce qu'effectivement, vu ce que sont les démographies des pays européens, on risque dans un certain nombre d'années de refonctionner sur le mode du besoin et de faire venir tout d'un coup, comme ça, des populations sans leur donner les moyens d'être vraiment accueillis. On pourrait prévoir les choses, et je crois qu'en particulier, on peut les prévoir à des échelles qui sont des échelles locales. C'est-à-dire, on voit bien que au moment de l'expérience des centres d'accueil et d'orientation, suite justement au démantèlement de ce qu'on a appelé la jungle de Calais, et suite à l'orientation à ce moment-là vers des centres d'accueil et d'orientation un peu partout en France, on voit bien que dans certains endroits, ça s'est très bien passé. Dans d'autres, ça s'est aussi très mal passé. Et pourquoi ça s'est bien passé? Parce que dans ces endroits, il y a précisément des connexions qui se sont créées entre les gens qui habitaient sur place et puis les étrangers qui arrivaient là sans connaître qui que ce soit, sans connaître même souvent le territoire sur lequel ils arrivaient. Et quand ces dynamiques se mettent en place, qui sont des dynamiques finalement très concrètes, eh bien quelque chose se joue en termes d'acceptation justement de l'hospitalité et en termes de possibilités d'accueil.
Mais alors vous dites qu'il faut les prévoir au niveau local, est-ce qu'il ne faut pas les penser en revanche, au niveau global, je vais citer la juriste Mireille Delmas-Marty, qui a fait un certain nombre de tribunes récemment sur ces questions, notamment d'hospitalité, et qui dit ceci, l'urgent est de mettre en place une gouvernance mondiale robuste par rapport aux migrations. Hein. De même qu'aucun État ne peut lutter seul contre le dérèglement climatique, aucun ne peut à lui seul gérer des déplacements massifs de réfugiés et de migrants. Est-ce que ça n'est pas ça qui manque? C'est d'ailleurs de se dire, ben voilà, il y a une urgence climatique. Et d'ailleurs, les phénomènes sont peut-être en partie liés. Il y a aussi une urgence migratoire aujourd'hui et puis également à venir, qui ne touche pas que l'Europe, hein, loin de là, parce que notamment on sait que par exemple, le continent africain est très soumis à ces phénomènes migratoires, mais est-ce qu'il n'y a pas la nécessité de penser globalement les migrations et d'essayer d'avoir une gouvernance qui soit une gouvernance mondiale, même si on voit qu'au niveau européen c'est déjà très compliqué.
Elle a bien évidemment raison et elle reprend d'ailleurs en cela une tradition qui est donc la tradition kantienne, de celle précisément d'une gouvernance internationale de ces questions d'hospitalité politique. Le problème, c'est que dans le contexte actuel, avec ce que devient les États-Unis, ce que deviennent les États-Unis en matière d'immigration, avec la situation d'une partie de l'Afrique, avec une Europe qui se divise de plus en plus sur ces questions-là, avec une Turquie et une Russie qui sont également sur d'autres positions, comment fait-on aujourd'hui pour poser en la matière une gouvernance mondiale? C'est bien sûr ce vers quoi on doit tendre, mais d'abord ça prend du temps, deuxièmement dans le contexte d'aujourd'hui c'est difficile, et donc il faut des règlements à tous les niveaux. Il faut des règlements au niveau local, il faut des règlements au niveau national et européen, et puis il faut effectivement arriver à pouvoir penser ces questions-là mondialement, mais dans le contexte actuel c'est extrêmement difficile.
Philippe Diribarne,
si on se passe à un niveau géopolitique. Une grande question à se poser, c'est est-ce que c'est pour l'Afrique un avenir raisonnable et souhaitable que de vivre sous perfusion de l'argent envoyé par les émigrés qui travaillent en Europe et qui envoient une très très grande partie de leurs revenus pour faire vivre les familles africaines au lieu de contribuer sur place au développement de leur pays. Alors, est-ce que c'est, comme on dit, une situation durable, sustainable, diraient les Anglais? Je crois qu'un des problèmes, on voit bien au Mali par exemple, qui a été beaucoup étudié, c'est que le fantasme dans lequel on arrivera à survivre en envoyant des gens, disons, en Europe, qui vont envoyer des fonds, qui vont permettre de survivre sur place aux éléments les moins dynamiques, parce que les plus dynamiques sont partis. Et c'est vraiment, c'est une perspective satisfaisante pour le monde, d'autant plus qu'on voit bien que quand même, enfin, disons, soyons réalistes, vous voyez, l'Europe est une dynamique dans laquelle le nombre de gens qu'elle va être susceptible d'accueillir dans les 50 ans qui viennent n'a rien à voir avec le nombre d'Africains qui vont devoir être nourris, qui vont devoir, pour ça, disons, prendre en main leur destin. Enfin, il me semble, si vous voulez, que les exemples, je parle par exemple de la Corée du Sud, qui, à la fin des années 40, était au même niveau de développement économique que le Burkina Faso, enfin même, je crois, en dessous, ou l'exemple de l'Allemagne complètement détruite après la Seconde Guerre mondiale, il me semble, dessine un avenir souhaitable pour l'Afrique, quand même plus satisfaisant que celui d'envoyer ces éléments les plus dynamiques en Europe en espérant qu'ils vont continuer à faire revenir l'argent qu'ils y gagnent, ce qui en plus n'est pas ne sera pas nécessairement ce qu'ils feront, disons, dans la durée et de manière indéfinie.
Fabienne Rogère.
Je crois que les choses sont en même temps un peu plus compliqué et un peu plus diversifié. Par exemple, si on prend un autre niveau des questions de migration, qui est la place des étudiants étrangers, et on sait qu'on a beaucoup d'étudiants étrangers brillants qui viennent précisément, par exemple, des pays d'Afrique. Je crois que là-dessus, il y a vraiment des politiques à penser, mais qui existent déjà, mais qui devraient être beaucoup plus favorisées, où précisément on forme justement des étudiants. Il reste peut-être travailler une ou deux ou trois années, et puis après, une fois qu'ils sont formés, une fois qu'ils ont créé aussi des réseaux, eh bien, ils peuvent peut-être envisager de retourner dans leur pays, de créer là-bas des choses sur place. Enfin, je crois que sur l'Afrique, il faut aussi avoir une vision multiple, y compris en termes de ce que sont les Africains, en termes aussi de religion. Après tout, il y a des religions très différentes sur ce continent africain. La République démocratique du Congo est certains pays, par exemple, largement chrétiens. D'autres pays sont des pays largement musulmans. Donc je crois qu'il faut avoir une approche de la diversité sur cette question aussi de l'Afrique.
Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette discussion. Philippe Diribarne, je renvoie donc à votre dernier ouvrage, Chrétien et moderne chez Gallimard, c'était en 2016. Fabienne Brugère, La fin de l'hospitalité, l'Europe terre d'asile, avec Guillaume Leblanc. C'est en poche désormais dans la collection Chants, Essais. Et puis, bien sûr, le dernier numéro de la revue Esprit, Le courage de l'hospitalité, numéro du mois de juillet et août. Merci à toute l'équipe du Grand. Merci bien sûr à Guillaume Goubert, directeur de La Croix. On peut retrouver vos interviews respectives dans le numéro du jour. Et Guillaume, on se retrouve à la rentrée.
Hein, je pique toujours la place, alors il ne peut pas vous répondre.
Et ouais, en fait. Mais il m'a fait oui de la tête.
C'est le jeu des chaises musicales. Hein.
Est-ce que j'ai remercié l'équipe? Non, ben je remercie toute l'équipe, voilà, de manière indiscriminée, comme ça je n'oublierai personne. Et je passe la parole à qui? Arnaud Laporte.
Surtout parce que vous n'avez plus le temps, en fait.
Bah oui, parce que je sais que vous n'aimez pas quand je suis en retard.
Non, c'est Aurélie qui
m'envoyait après des courriers.
Sinon, elle met du stabilo sur toutes ses pages et après, ça ne sert plus à rien. Alors, Hervé Gardette, on va se retrouver demain.
Ouais.
On sera au Bel Air.
Pour une question.
Ouais.
Mais où est passée la disruption? Eh oui, on la cherche. Mais on a du mal à la trouver.
Eh bien, écoutez, on ira la chercher demain du côté du Bel Air. Vous écoutez France Culture, il est 19h.